Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Édouard Dupraron. Bonjour Édouard Dupraron.
Bonjour.
Vous publiez votre premier livre aux Presses de la Délivrance qui s'appelle « Dépossession » et qui en ce moment eh bien, vaut pas mal de retours médiatiques, de retombées médiatiques. Le livre fonctionne très bien. On va parler de plusieurs choses dans ce « Dépossession » que vous évoquez. Je vais vous dire après comment je l'ai interprété, ce livre. Mais d'abord, « Dépossession », vous êtes un jeune, trentaine d'années, vous racontez un peu cette dépossession culturelle, cette dépossession que vous vivez à travers le héros de votre personnage. Comment peut-on être dépossédé de quelque chose que l'on n'a pas connu et dont le phénomène de dépossession culturelle a commencé, j'allais dire, il y a 30 ou il y a 40 ans, peut-être même au moment où vous n'étiez même pas né. Donc, vous êtes dépossédé de quelque chose que vous voyez dans les films des années 60 ou des années 70 ou que vous lisez dans les livres d'histoire, finalement. Je m'adresse au héros, évidemment, Édouard Dupraron.
Oui, alors il y a aussi des choses que l'on a vues, que l'on a connues, qui, année après année, sont attaquées, remises en question. J'ai connu, je sais pas, moi, des chasses où il n'y avait pas d'antichasse qui venait nous perturber. J'ai connu un temps où on n'était pas culpabilisé pour le fait de manger de la viande. Un temps où l'on ne se posait peut-être pas la question de commémorer un certain nombre d'exploits de notre histoire de France. Certes, j'étais plus jeune, mais tout de même, lorsque j'étais petit, je ne crois pas qu'il y avait des débats dans la société. Comme lorsque Maître Gims se pose la question de savoir si un musulman doit souhaiter joyeux anniversaire ou joyeux Noël aux gens qu'il croise ou bonne année. Je ne crois pas que la polémique sur le burkini à Grenoble était quelque chose qui existait lorsque j'étais plus jeune. Donc en fait, tout de même, tout cela s'accélère et donc je participe et je vois plutôt, pardon, je ne participe pas, mais je vois cette dépossession année après année. Après, voilà, mon livre ne se limite pas seulement au sujet d'immigration. Il y a aussi voilà, tous les aspects de déchristianisation, la fragilisation des liens familiaux, la déconnexion de la nature, voilà, des métiers aussi dans certains secteurs qui sont de moins en moins connectés au réel. J'évoque aussi, bien évidemment, par un autre exemple, l'Union européenne. Je pense que 2005, je sais plus, j'avais 17, 18 ans. Le peuple français souhaite s'opposer au référendum et depuis l'Union européenne a plutôt accru son pouvoir et a confisqué, je pense, une partie de notre souveraineté. Et cette souveraineté confisquée au peuple en partie, l'Assemblée est souvent une chambre d'enregistrement de ce qui est décidé au Parlement européen, fait partie de cette dépossession sur l'aspect démocratique, par exemple.
Alors, c'est intéressant parce que j'allais vous dire comment j'interprète votre livre. Je le vois plutôt aussi comme une analyse, moi, pour moi, une analyse sociologique des oppositions actuelles. Par exemple, on avait dans les années 70, après mai 68, cette opposition entre les 68ards. Voilà, c'est ces 68ards et puis ces gens qui étaient pour l'ordre, un peu plus dans la philosophie gaulliste. Les années 80, on a vu poindre cette opposition entre les socialistes et les RPR de l'époque. Aujourd'hui, vous marquez très bien cette opposition. Il n'y a plus deux clans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a trois clans. Ces trois clans se résument, je vais le dire très grossièrement, cette génération de jeunes qui est très pro-RN ou bien Éric Zemmour, la génération de jeunes plutôt écolo NUPS et une autre génération de jeunes, comme on le voit, qui est plutôt d'obédience libérale, européenne et qui est assez macroniste. Je ne vais pas me hasarder à faire des scores en disant ça fait un tiers ou peut-être moins, peu importe. Alors, on part du postulat que c'est un tiers, un tiers, un tiers. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces trois oppositions? Ça se résume de cette
manière. Oui, même si j'ajouterais qu'au sein de la jeunesse NUPES, il y a aussi dedans une sous-partie qui est la jeunesse issue de l'immigration, qui peut faire un bloc à part entière, qui lorsqu'il s'agit de voter, lorsqu'elle va voter de la même façon que une certaine jeunesse bourgeoise qui fait qui fait les marches pour le climat et qui va voter NUPES. Mais je pense qu'il y a quand même deux générations au sein du bloc NUPES.
Est-ce que ça veut dire que cette jeunesse ne peut plus s'entendre ? Vous allez me répondre peut-être que les gens de Mesquiofé mai 68 ne s'entendaient pas avec les jeunes gaullistes à l'époque et partaient pas en vacances ensemble. Hein. Ça, c'est possible aussi.
Moi, ce que je suis persuadé, c'est qu'en fonction des sujets qui dominent la société, les clivages diffèrent. Donc, lorsque c'est les sujets économiques qui dominaient dans les années 90-2000, vous avez les libéraux d'un côté, la gauche plus socialiste de l'autre. Une fois que les sujets identitaires ont pris le dessus, vous avez des courants qui, sur ces sujets d'identité, pour défendre une certaine vision de la France, se retrouvent dans le même camp, alors que lorsqu'il s'agit de parler d'économie, vous avez ceux qui sont plus LR, donc plus libéral, ceux qui sont plus RN, donc moins libéral. Mais si on met les sujets d'identité en premier, alors ces gens sont dans le même camp. Par contre, moi, ce que je dis juste, c'est que nous pouvons avoir des ancêtres, même si aujourd'hui je suis dans le même camp qu'une personne, peut-être que nos ancêtres n'étaient pas dans le même camp, peut-être que nos descendants ne seront pas dans le même camp, mais il y a quand même un autre bloc, qui sont les jeunes issus de l'immigration, qui, avec une culture différente, une civilisation différente, si eux ne s'intègrent pas, je vois pas comment même leurs descendants ne seront dans le même camp. Tant qu'il n'y a pas d'assimilation et d'adhésion aux valeurs françaises, alors là, il y aura jamais vraiment de vie commune. Alors qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui a voté NUPES, peut-être que ses enfants se retrouveront dans le même camp que les miens, en fonction des clivages de la société de demain.
Est-ce que les jeunes,
donc il y a un espoir.
Est-ce que les jeunes dans l'ensemble, les moins de 30 ans, hein, sont plus nostalgiques que ne l'ont été leurs aînés à leur époque, quand ils avaient leur âge?
Oui, je dirais que oui. Je pense que lorsqu'on nous dit qu'il a existé une France dans laquelle on pouvait laisser ses clés de contact sur sa voiture à la campagne pour aller acheter sa baguette de pain et revenir et que la voiture soit toujours là, oui, effectivement, il y a une certaine nostalgie qui se développe. Après, il faut dire que la génération d'avant ou encore d'avant avait bénéficié de limites intrinsèques à la société. La technologie n'était pas encore apparue, l'abolition des frontières avec la libéralisation, la société de consommation n'était pas là. Donc, ils étaient protégés. C'est ce que Alain Finkielkraut souvent appelle ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières, mais on a des digicodes. Donc, en fait, on a déplacé les frontières. Et lorsqu'on abat toutes les frontières qui protégeaient au sein de la France une communauté, alors on est obligé de mettre des digicodes, de mettre des caméras partout. Et en fait, on croit renforcer la sécurité, mais en fait, on ne règle pas les problèmes à la source. Voilà, enfin, je réponds un peu de manière... je fais des détours dans ma réponse. Mais oui, je pense qu'il y a plus de nostalgie dans cette jeunesse que dans celle d'il y a 30 ans, peut-être.
Quand je parle souvent... Des jeunes, je dis souvent, je prends cet exemple, il y a eu une France de la fin des années 70, de la fin des années 80, qu'on voit très bien même dans les films de l'époque. Vous imaginez un film avec Jacques Brel, Lino Ventura, etc. Il y avait cette France où les gens se garaient près des Champs-Élysées dans les restaurants avec des roues sur le trottoir ou bien un peu n'importe comment, qui dînait au restaurant, qui pouvait boire deux ou trois verres de vin, qui prenait l'autoroute pour aller se balader ensuite à Deauville une heure et demi plus tard en roulant à 160 km/h. Et voilà. Alors, cette France, elle était folle, irresponsable, peu respectueuse de la planète, insouciante. Comment vous qualifieriez cette France? Est-ce que vous la regrettez, cette France? Vous la regrettez, vous ne l'avez pas connue. Est-ce que vous auriez aimé être une petite souris pour quand même y vivre un peu?
Moi, je regrette pas d'être né dans mon époque. Je dis pas forcément que c'était mieux avant. Ce que je souhaite montrer par ce livre, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans notre époque donnée, un certain nombre de sujets, d'attaques, qui, si elles n'existaient pas, la France irait mieux, la France se porterait mieux. Donc forcément, lorsqu'on dit ça, ça peut aller avec une certaine nostalgie de la France d'avant, mais c'est pas pour dire que la France d'avant était mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... on serait mieux en France si on ne nous culpabilisait pas à longueur de journée sur les sujets d'écologie, si on ne nous attaquait pas sur notre identité chrétienne, si les lois progressistes n'étaient pas prises. Après, effectivement, quand on regarde les films de Lino Ventura, de Gabin, de Louis de Funès, cela donne envie à une certaine insouciance, une certaine légèreté. Il y a aussi un peuple français... qui semble partager quand même un certain nombre d'idées, de modes de vie. C'est-à-dire, bien évidemment que les Français se divisaient. Il suffit de repenser aux gaullistes anti-gaullistes, autour de la guerre d'Algérie. Enfin, c'était très violent. Mais les Français partageaient dans grande majorité les mêmes modes de vie, les mêmes coutumes. Et là, ce qui est problématique en France, c'est que les Français partagent de moins en moins les mêmes modes de vie et coutumes et se replient chacun sur leur sphère avec leurs idéaux. Voilà. Et en fait, mon livre, ce que veut montrer mon livre, c'est qu'en fait, certes, si je, dans les débats publics, dans la rue, dans l'actualité, dans les médias, j'ai cette impression d'être dépossédé et d'être attaqué sur les modes de vie plus traditionnels français. Mais en fait, même aujourd'hui, si je veux me couper de tout ça et que je veux même me replier, ce qui est un danger d'ailleurs, sur mon microcosme, partir des grandes villes pour aller en province, en fait, eh ben, vous ne pouvez pas échapper à ça. C'est-à-dire qu'à l'école, les programmes scolaires sont adaptés à une certaine idéologie. Vous avez dans la rue des publicités pro-LGBT. Il y en a eu encore beaucoup là le mois dernier. Vous allez à la chasse le week-end. On vient vous perturber votre chasse. Donc en fait, même si vous souhaitez vivre votre vie, transmettre à vos enfants ce que vos ancêtres vous ont transmis, vous avez les déconstructeurs qui viennent, qui viennent essayer de détruire le modèle auquel vous avez cru. Voilà, on peut plus y couper en fait. La dépossession est généralisée. Voilà. Après, la France reste un beau pays. Lorsqu'on est privilégié, on peut toujours hein, tranquillement vivre sa vie et transmettre à ses enfants les valeurs qu'on a envie de transmettre. Mais à l'école, il y aura voilà forcément les enjeux autour des transgenres, autour du recyclage. C'est très bien de recycler, mais quand ça devient l'obsession d'un enfant de 5 ans, ça pose problème.
Justement, comment faut-il vivre par rapport à cela? Est-ce qu'il faut s'opposer? Est-ce qu'il faut dénoncer? Est-ce qu'il faut se dire qu'il va y avoir quelques années difficiles? Vous-même, par exemple, vous publiez votre livre sous un pseudonyme. Voilà, on va le dire clairement. Parce que finalement, et vous avez certaines craintes, voilà, maintenant, est-ce que ça veut dire que le terrorisme intellectuel va être de plus en plus fort? Et comment vivre simplement face à ce que l'on pourrait qualifier de terrorisme intellectuel?
Non, mais je pense, je dirais quand même que la parole s'est totalement libérée sur les sujets, par exemple, d'identité. Ce qu'on peut dire aujourd'hui n'était pas, on ne pouvait pas le dire il y a
Acceptable.
5, 6, 7 années acceptable. Il y a malheureusement eu les attentats qui ont changé la manière d'appréhender ces sujets. Les Français, quand même, se sont rendus compte qu'il y avait une vraie sécession dans un certain nombre de territoires, que la délinquance plus enfin, et la drogue plus l'islam créaient en fait. Une cession du territoire et vous pouvez amener des attentats. Les Français, d'ailleurs, n'ont pas peur de l'attentat pour eux. Ils ont plutôt peur de ce que ça signifie du changement en cours de civilisationnel. Après, moi, par rapport à mon nom, le pseudo, j'ai pas forcément peur d'assumer ce que je dis. C'était plus pour des raisons professionnelles, ne pas mélanger les deux dans le domaine public. Aujourd'hui, quand même, on peut dire que la liberté d'expression existe encore, même si on voit... Les attaques contre la liberté d'expression, c'est aussi parce que les idées nationales ont de plus en plus de leur place dans les médias, donc c'est une sorte de réaction inverse. Pour éduquer ses enfants, bah, je pense que il faut déjà lire les auteurs, se cultiver, apprendre notre histoire de France, et s'armer intellectuellement et transmettre à nos enfants les modèles auxquels on croit. Et si on est suffisamment armé intellectuellement, on a de quoi déconstruire les déconstructeurs. Et voilà, que nos enfants soient totalement ancrés dans ce monde, c'est-à-dire qu'ils seront à l'école avec d'autres enfants, mais on n'est peut-être pas obligé de les mettre devant la télé, on n'est peut-être pas obligé de leur dire qu'un garçon peut être une fille et une fille un garçon, on peut leur dire qu'il y a un modèle familial traditionnel qui a prédominé, voilà, on peut leur transmettre la foi chrétienne aussi. Je pense que dans mon livre, je l'aborde, le personnage
Oui.
principal, au cours du roman, découvre la foi, même s'il vient d'une famille qui lui a transmis, mais il n'était pas très intéressé par ces sujets, et va voir dans le christianisme une manière de réconcilier l'identité. Le christianisme a cet atout-là d'être ouvert à l'autre, à l'universel, tout en quand même pour vous, car il veut le bien de chaque être humain. L'être humain a besoin d'enracinement, comme le dit Simone Veil, le besoin peut-être le plus impérieux et le plus méconnu de l'âme humaine. Et donc pour cet enracinement, le christianisme peut enfin, amène aussi à devoir défendre notre identité, notre manière de vivre, et a aussi vraiment une dimension de liberté. Et je pense que la liberté, c'est peut-être notre bien le plus précieux.
Il y a quelques décennies, on n'entendait pas des jeunes parler comme vous le faites, hein, je vais le dire clairement, Édouard Dupraon. Ça veut dire que plus il y a un extrémisme d'un côté, j'allais dire, de l'autre côté de la balance, repousse des propos tout aussi encore plus contradictoire, finalement. Un poids fort, je n'ai pas employé le mot d'extrême. Un poids fort d'un côté de la balance, sur le plan linguistique, eh ben, normalement, il y a un autre muscle qui se développe de l'autre côté. Et ce muscle, c'est le discours que vous tenez, qui, je vous le dis franchement, dans les années peut-être 70, 80, même 90 ou 2000, aurait été inimaginable.
Oui, alors je peux pas m'en rendre compte. Après, il y a aussi, c'est des choses que les gens pensaient et partageaient, mais n'avaient pas besoin de dire, parce que ça, une partie de ce que je dis coulait de source. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tenir un discours fort pour dire qu'il faut défendre notre identité, notre civilisation, et qu'il faut transmettre, je sais pas, une certaine vision de la vie à nos enfants, parce qu'en fait, le peuple français vit dans cette société, et vous n'avez pas besoin de mettre des mots et de défendre quelque chose qui est qui coule de source. Donc, en fait, vous n'allez pas dire. Vous n'allez pas dire à vos enfants un papa c'est un papa, une maman c'est une maman, l'altérité est importante, et un enfant a besoin d'avoir des repères, parce qu'en fait la question ne se pose même pas. Le Pax n'existe pas, le mariage gay n'existe pas, et c'est même pas ça le problème aujourd'hui. Ça a posé le premier jalon aussi. Le problème, c'est que ça a posé des mauvais repères, et c'est les jalons qui font qu'aujourd'hui, dans des écoles même privées, nous entendons des professeurs qui, au détour d'une question, sont obligés de répondre que oui, un garçon peut devenir une fille, ça arrive. Donc l'enfant revient à la maison à 4 ans et dit à ses parents « Ah, il paraît qu'un garçon peut devenir une fille ». Et ça, en fait, c'est un propos que tout le monde tenait, personne n'aurait tenu, vu que la question ne se posait pas. C'est parce qu'il y a des déconstructeurs et des lobbies qui sont déconnectés de ce que d'attendre les Français. Hein. Le sujet des Français, c'est le pouvoir d'achat, c'est les problèmes de sécurité, d'immigration, ce n'est pas ces sujets-là. C'est pour ça que nous développons, des gens comme moi, un contre-discours. Mais moi, mon roman, au début, c'est je prends un personnage principal, un jeune qui évolue dans sa vie, il a un travail déconnecté du réel, il est consultant dans le secteur bancaire, il reçoit des mails LGBT de son entreprise, ses collègues ont une culture générale
qui est
très faible.
C'est un peu vous.
Oui, voilà. Donc en fait, moi, j'ai été consultant pendant 5 ans, donc je me suis inspiré, même si c'est pas du tout autobiographique, je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir. La journée, ses collègues lui parlent que de la dernière série, du dernier film, très peu de culture G. Le soir, son immeuble se divise autour d'une crèche de Noël qui a été mise dans le hall d'immeuble. Donc en fait, il y a des sujets d'identité, tout ça aurait coulé de source il y a quelques années. Le week-end, ses loisirs sont perturbés, il y a des sujets de blackface. Il voit la déchristianisation et les liens familiaux se fragilisent autour de lui. Les gens votent de moins en moins parce qu'ils ont l'impression de toute façon de perdre le pouvoir et de prise de contrôle sur les hommes politiques. Il y a les attentats et donc on vit avec le personnage principal dans son quotidien. Et c'est ça que je voulais montrer, comment, même si je veux ne pas m'intéresser à la politique et que je ne veux rien faire, je veux juste vivre ma vie, la politique s'impose à moi à cause de déconstructeurs et de lobbies progressistes. C'est juste un sentiment que je voulais montrer via un roman, et le roman permet d'intéresser des gens qui ne vont pas lire des essais, ne vont pas lire des grands interviews politiques avec des grands intellectuels. Le roman incarne via une personne ce qu'on peut ressentir, ce que peut ressentir un jeune qui veut juste vivre en France, mais sans faire de politique, sans imposer. Voilà, moi, je veux vivre ma vie, je ne veux pas imposer mes valeurs, ma foi.
Oui, d'embêter personne, oui. Est-ce que finalement...
Je vous laisse.
Non, je vous en prie. Ce sentiment de dépossession, est-ce qu'il n'atteint pas beaucoup plus de personnes qu'on ne l'imagine? Simplement, vous l'exprimez, et les gens n'osent pas l'exprimer ainsi, peut-être aussi par peur.
Alors, chez les jeunes de gauche écolo, ils sont assez fans d'un concept qui les regarde, qui s'appelle l'angoisse écologique, c'est-à-dire... ils ont peur et la planète va disparaître, ça les angoisse, on a vu qu'ils ont des bouffées de... Donc là, c'est pas du tout ça, hein. Là, c'est vraiment plus... Lorsque le peuple français, par son vote, depuis 10 ans maintenant, fait monter le RN ou alors s'abstient, les commentateurs des médias disent « Ah, mais c'est étonnant, c'est juste un ras-le-bol du système ». Et en fait, quasiment personne, sauf depuis peut-être la dernière élection, dit, depuis qu'Éric Zemmour est apparu dans le champ public, personne ne dit « Oui, mais en fait, c'est que les gens ont l'impression que la France est de moins en moins la France ». Et donc, en fait, il y a plein de gens qui ressentent ça. Ils vont sur un marché en pleine campagne, et là, il y a deux femmes voilées qui arrivent, ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Ils vont à un événement, ils entendent parler que les écolos critiquent le Tour de France, ils entendent la dernière polémique sur le burkini, et ils se disent « Mais... c'est plus mon pays autour de moi, il y a des choses qui sont en train de disparaître, une certaine vision de la vie ». Et donc oui, il y a un sentiment de dépossession qui va avec, mais c'est pas du tout une angoisse ou une peur, hein. C'est vraiment plus un constat. et les gens expriment leur ras-le-bol. Ils veulent seulement pouvoir que la civilisation chrétienne française se perpétue. Et de toute façon, il y a une déconnexion déjà entre. Alors après, déjà, il y a ce qu'il y a, ce qu'il y a, il y a les grandes villes et le reste des grandes villes. Les considérations et ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une déconnexion vraiment entre les deux. Hein. Quand je dis les gens, voilà, il faut aussi. Enfin, voilà.
Alors, je vais préciser que notre studio est à la boule. Vous n'imaginez pas, Edouard, le nombre de réactions qu'on a eues sur quand on, le nombre de messages que l'on reçoit quand les gens aperçoivent le week-end des femmes en burkini sur la plage de la boule. Vous imaginez une clientèle plutôt bourgeoise qui la sent, cette dépossession.
Alors justement, par rapport à ça, en fait, l'enjeu n'est pas du tout de faire des conversations philosophiques pour savoir si le voile, c'est l'enfermement de la femme, la liberté de la femme, enfin tout ça. Oui, bien évidemment que ce sont les idiots utiles comme le maire de Grenoble qui œuvrent à l'enfermement de la femme, parce que bien évidemment, je pense que derrière, il y a quand même le poids des hommes. Mais en fait, c'est pas le qui incite, qui impose à la femme de se couvrir pendant que lui n'est pas couvert, mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est imaginons que ça soit pas un burkini, mais que ça soit un déguisement chinois, ou déguisement de n'importe quel pays que vous le souhaitez,
Ce serait la même
tant qu'il n'est pas
chose.
européen. En fait, la différence, c'est juste de. Non, mais il y a cette dimension-là, mais la vraie différence, c'est de se dire, les gens sont en France, sur une plage française, et donc ont envie qu'autour d'eux, la majorité des gens soient habillés à la française. Et donc, en France, on va se baigner d'une certaine façon. Et donc, si la personne était en Dalai Lama, ou en habillée, je sais pas, la chinoise, ou avec un déguisement, ou en kimono, les gens. Trouverait, mais on n'est plus en France ici. Donc déjà, il y a vraiment ce sentiment de base. C'est pas de l'islamophobie, c'est pas les gens font pas des raisonnements sur le sort de la femme derrière le burkini. Il y a d'abord tout simplement le fait de je souhaite pouvoir continuer à vivre selon mes us et mes coutumes, qui ont leurs défauts mais qui ont aussi leurs qualités. Et après, bien évidemment, il y a cette deuxième analyse de dire il est peu probable que la majorité des femmes qui portent le burkini le fassent avec le plus grand bonheur, même si aujourd'hui celles qui le portent doivent le faire par bonheur parce que c'est des militantes. Mais si le burkini venait à se banaliser, bien évidemment que dans quelques années, ça serait des femmes à qui on l'aurait imposé.
Merci Édouard Depraron, nous a parlé de son livre Événement en ce moment, Dépossession, on en parle beaucoup. C'est publié aux éditions Presse de la Délivrance. On peut le trouver sur toutes les plateformes de vente en ligne, notamment sur Amazon, hein, Édouard Depraron, pour son livre Dépossession. On a résumé, c'est l'histoire de ce jeune qui a une trentaine d'années, un peu moins même d'une trentaine d'années, travaille dans la finance et qui, au fur et à mesure de sa vie quotidienne, eh bien, ressent cette dépossession au quotidien, des possessions intellectuelles, idéologiques, culturelles, philosophiques, religieuses même. Édouard Depraron nous a parlé de son livre Des possessions. Merci Édouard, à bientôt. Merci.
Merci beaucoup.